d'être venus si nombreux pour assister à cette présentation et à ces signatures de convention. Donc je vais tout d'abord me présenter parce que par cette présentation, je vais pouvoir aussi intégrer les différents acteurs de ce projet. Donc aujourd'hui, je suis chargé de projet de la réserve de Seine-et-Oise du Pic du Midi et également doctorant en géographie aménagement au sein du laboratoire en société environnement territoire de l'Université de Pau et des Pays de Bagne. Il faut savoir qu'en tant que chargé de projet, c'est la régie du Pic du Midi qui m'embauche. En tant que doctorant, je le suis au sein du laboratoire Société Environnement. Donc c'est bien ces deux acteurs, mais également l'association Pyrène qui a initié le projet en 2009, que ce projet peut exister, que ma place existe et a été créée. C'est grâce à ces personnes qui ont cru en nous et nous ont porté qu'aujourd'hui ça peut se faire. Sans oublier également, je ne sais pas si ça se voit en vrai, je ne pense pas qu'on a les chaises devant, les partenaires institutionnels et financiers. Donc, il ne faut pas oublier l'Agence nationale de recherche et technologie qui finance en partie mon salaire et qui a permis la coopération entre le Pic du Midi et le laboratoire 7. Mais également le Conseil général qui finance en partie le projet via le Fonds Innovation Recherche que Michel Pédou nous présentera en fin de réunion. Le SDEDF bien sûr, et également le Parc national qui s'est engagé avec nous dans la démarche, qui a mis à contribution ces différents acteurs. Que ce soit les gardes moniteurs ou les chargés de mission ou évidemment son président. Et on a aujourd'hui le territoire au niveau de Haute-Pyrénées qui est engagé intégralement dans la démarche de la réserve de Seine-et-Oise. Et enfin, pour sa partie institutionnelle, l'Observatoire Midi-Pyrénées et l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie qui nous soutient à son niveau sur toutes les expertises scientifiques de l'observation de Seine-et-Oise. Voilà, donc on va pouvoir passer. L'idée, ça va être de vous présenter rapidement le projet. Que ce soit autant les axes que nous mettons en place et les différents périmètres que nous avons développés, et enfin les actions en cours, vraiment ce par quoi le projet se concrétise. Alors tout d'abord, la réserve du Pic du Midi de Bigorre, on va l'appeler RIS, c'est un peu plus rapide à prononcer. Alors si on peut passer à la première présentation, voilà, Jacques-Coune nous l'a abordé, nos trois axes qui sont véritablement la concrétisation de notre stratégie de développement du projet. Un premier qui va être la protection et la préservation d'un ciel étoilé relativement pur. Par là, on a mis tout en place toutes les opérations de suivi de la qualité de ciel pour obtenir un niveau zéro de cette qualité de ciel, vraiment une première vision de la qualité du ciel étoilé, afin de voir les évolutions, les améliorations de cette qualité grâce à notre deuxième axe, qui est le développement et l'application d'un nouveau mode d'éclairage pour justement la réserve de ciel étoilé. Ce nouveau mode d'éclairage, je ne le précise pas maintenant, je vais le développer juste après sur les actions en cours. Et enfin, le troisième axe qui chapeaute un peu le tout, voilà, c'est un programme de sensibilisation, d'éducation et de mise en tourisme qui va permettre de faire vivre ce message de la réserve de ciel étoilé et vraiment de la pérenniser, de l'implanter sur les territoires et de faire ciel étoilé une véritable ressource pour les territoires pyrénéens. On va passer ensuite à notre label auquel nous postulons, qui est le label de l'International Dark Association, qui est une association internationale qui regroupe 20 000 membres à travers le monde et qui délivre, après un cahier des charges bien rempli que nous sommes en train de faire, un label, une reconnaissance internationale sur le travail qui est mené sur les réserves de ciel étoilé. On va passer directement au périmètre de la réserve de ciel étoilé. Le premier périmètre, qui est celui de la zone cœur, cette fameuse zone dans laquelle nous allons avoir un ciel de très bonne qualité, des milliers d'étoiles observables vraiment dès la nuit tombée, un espace dans lequel il n'y a aucune lumière permanente, c'est-à-dire un ciel intrinsèquement pur. L'idée de cette zone cœur, la voici, nous la voyons ici, je ne sais pas si ça se voit bien, elle fait aujourd'hui 600 km², cette zone cœur. Alors comment a-t-elle été tracée? Eh bien, par trois axes en fait que nous avons suivis. Le premier était de ne pas constituer vraiment de contraintes supplémentaires sur les territoires. C'est-à-dire que nous nous sommes calqués sur des espaces naturels déjà existants et des sites classés. On retrouve ici en HUD la zone cœur du Parc national des Pyrénées, la réserve du Néoguel, les sites classés du Pic du Midi, du Bastan, mais également du Bourron et de la Haute-Vallée d'Or. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui cet espace s'implante, il protège sans être contraignant. C'est une nouvelle dimension de la protection de l'environnement. On passe à l'aspect nocturne. Le deuxième axe, voilà, c'était d'avoir un espace dans lequel on a un ciel intrinsèquement pur. Donc on le retrouve ici avec cette modélisation de la pollution lumineuse, où l'on voit ici tout en été vers des couleurs chaudes, plus on va avoir un espace pollué par la lumière, plus on va justement au niveau du centre pyrénéen, vraiment au niveau de la crête frontière, plus on retrouve cette qualité de ciel que nous avons vraiment retrouvée avec ce contour de la zone cœur. Et enfin, troisième axe, nous inscrire directement dans les prescriptions du Grenelle de l'environnement. Il faut savoir qu'en juillet dernier, en juillet 2011, un décret est paru qui précise que dans tout espace à proximité d'espaces de sites astronomiques, ici depuis 10 midi, ou dans des espaces naturels protégés, des mesures plus restrictives sur l'éclairage doivent être mises en place. Donc on est exactement dans cette dimension-là. Si on veut passer sur la diapo suivante, pour vous préciser ensuite le deuxième périmètre qui est encore en cours d'élaboration, c'est ce qu'on appelle la zone tampon, c'est-à-dire la zone qui va entourer la zone cœur, dans laquelle les communes vont s'engager à respecter des prescriptions d'éclairage non contraignantes pour permettre de préserver la qualité de ciel dans la zone cœur, mais également d'imprégner, vraiment d'implanter le projet de la réserve de Célébolet sur les territoires. Alors cette délimitation aujourd'hui, c'est une délimitation théorique qui est définie par les cahiers des charges de l'IDEA, qui précise qu'il faut un périmètre tampon de 15 km à distance de la zone cœur. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a un tracé encore assez large. Aujourd'hui, on est en train de le contextualiser grâce aux entités territoriales. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut le dire, le pays de la Vallée des Gaz s'est engagé officiellement dans le projet. Donc là, on va englober un peu plus lourd et progressivement, cette zone tampon va se préciser en fonction des différentes entités territoriales qui s'engagent sur le projet. Donc, en termes de définition du périmètre, il faut savoir que 70% de la réserve de Célébolet est au-dessus de 2000 mètres d'altitude au niveau de la zone cœur. C'est-à-dire qu'on a une qualité paysagère et naturelle remarquée, remarquable, et vraiment qui a une réputation internationale. Voilà, au niveau des périmètres. On va passer maintenant aux différents enjeux que j'ai voulu identifier ici pour vraiment vous montrer l'intérêt de ce projet de réserve de Célébolet. Le premier enjeu est notamment un espace à préserver des menaces de la pollution lumineuse. Alors pour ça, j'ai identifié deux choses. Il y a tout d'abord l'aspect paysager et environnemental. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux tiers de l'environnement qui est nocturne, qui a besoin de la nuit pour vivre. Aujourd'hui, on constate sur ces images de la plaine, au niveau du pic midi, une augmentation de la pollution lumineuse. Donc il y avait véritablement quelque chose à faire pour maîtriser cette entrée de la pollution lumineuse à l'intérieur du massif pyrénéen. Pour un peu exprimer cette idée, je vous ai choisi vraiment deux images symboliques. J'ai pris ici le Mont Perdu et la Brèche de Roland, deux grands symboles de la naturalité dans les Pyrénées et du pyrénéisme. Et bien la nuit tombée, quand un petit nuage de brume se met au-dessus des Pyrénées, ça vient révéler la pollution lumineuse. Alors ici, ça ne se voit pas très bien, mais on retrouve la Brèche de Roland en contre-jour de la pollution lumineuse. Donc c'est-à-dire que cette pollution commence à rentrer dans les axes valéens, et elle va vraiment se rentrer à l'intérieur. Et paradoxalement, des espaces vraiment exemple de nature, à la nuit tombée, se matérialiser. Ensuite, voilà, je voulais quand même aller vérifier, aller plus loin dans cette approche. Je suis monté de la Pyrénée en cylindre du Marbré pour voir le mont des Pyrénées, et j'ai vu qu'à la nuit tombée, de la même façon, on retrouve cette nappe de pollution lumineuse quand la brume vient à lever. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu ici à préserver cette qualité. Ensuite, le deuxième axe, par exemple, au niveau du pic du midi, on est en plein dedans, il faut savoir que sur un observatoire international et un observatoire reconnu internationalement grâce à son télescope, le télescope Bernardio. Il faut savoir qu'aujourd'hui le pic n'est pas directement menacé par la pollution lumineuse, mais avec une augmentation de cette pollution, c'est leur champ d'investigation scientifique qui risque d'être restreint, et donc leur concurrence et leur reconnaissance au niveau international pourraient être directement impactées. Voilà au niveau du premier enjeu. Deuxième enjeu, pour le pic du midi, et ben ce projet c'est un véritable temps fort pour l'histoire, dans l'histoire du pic du midi. Ici je vous ai remis un peu j'ai choisi quelques différents axes qui présentent un peu cette aventure humaine, les premiers aménagements de l'observatoire, vraiment les hommes ont cru à cette aventure folle. En 96, le grand suspense avec la fermeture de l'observatoire et les débuts des travaux du syndicat mixte, on croyait à l'époque à la fin du pic du midi, mais non, il a tenu, et aujourd'hui c'est confirmé encore une nouvelle fois cette vie, ce dynamisme du pic, avec en 2009 le projet de la réserve de Célétoilet et en 2011 son entrée en phase opérationnelle, et véritablement ce projet un nouveau battement de cœur pour le pic du midi qui présage un grand avenir et une preuve encore de son dynamisme au niveau des territoires. Voilà, on peut passer à l'enjeu suivant qui est vraiment à mon sens un des plus importants, qui est un enjeu de développement durable des territoires pyrénéens. Il faut savoir que ça va être une véritable nouvelle place pour le pic du midi. Au départ, en 2009, on était sur un projet de site autour du pic. Et là, si vous l'avez vu avec les cartes que nous avons présentées, nous avons un véritable projet de territoire, avec un projet d'aménagement et de développement de ces territoires. On peut voir sur la diapo suivante la façon dont ça va se décliner. En effet, c'est une opportunité pour ces acteurs du territoire, que ce soit autant les entités territoriales, tout ce qui va être bureau d'études, les universités, de se développer autour d'activités scientifiques et économiques nouvelles, que ce soit par de la recherche sur les impacts de la pollution lumineuse, le développement d'un tourisme astronomique ou de nature, ou en lien avec le ciel étoilé, ou encore justement l'étude de l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Véritablement, on a un engagement d'action à plusieurs dividendes qui peut se traduire par ces trois axes. On aurait un renforcement de l'attractivité du territoire, une diversification géographique et saisonnière de ses activités touristiques, et également, comme Jacques le disait, une maîtrise des dépenses en énergie des collectivités locales par la conversion des éclairages. Voilà. Donc ça, on a véritablement un enjeu de développement du territoire via ce projet. Si on peut passer à la diapo suivante, et enfin, je le disais, le moyen pour les territoires de la réserve de Sélétoilet de se placer en tant que site pilote des applications du Grenelle de l'environnement. Si on veut passer maintenant à la diapo suivante, qui va vous présenter les actions en cours. Alors le premier est le groupe de travail éclairage de la réserve de Sélétoilet. Ce groupe de travail est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle nationale et européenne, il n'existe actuellement aucune norme ou réglementation qui permette de prendre en compte les nuisances lumineuses et l'impact justement sur la qualité du ciel, mais également de permettre un véritable mode d'éclairage économe, durable et non polluant. Devant ce constat, l'équipe du projet a décidé de mettre en place ce groupe d'éclairage qui se compose de deux niveaux. Tout d'abord, d'un côté, des experts techniques et scientifiques. On va retrouver EDF, SDE, le Parc National, mais également des astronomes. Bref, un ensemble d'experts de différents domaines en lien avec le ciel étoilé, l'énergie et l'éclairage, qui vont permettre de déterminer les seuils et les valeurs pour une nouvelle norme éclairage, un véritable document prescriptif à destination des communes. Et de l'autre côté, un axe acteur du territoire qui va permettre de travailler directement à la sensibilisation et à l'implantation de ce document prescriptif au niveau des territoires. Car il ne s'agit pas uniquement de créer un document, il faut aussi sensibiliser, car on est quand même dans une situation de transition où c'est des choses qu'il faut vraiment présenter au territoire pour qu'elles soient comprises et appliquées. Alors nos objectifs sont doubles, déjà la mise en place de ce document prescriptif et son implantation sur les territoires. Alors pour cela, on va véritablement développer et délivrer un programme clé en main à destination des communes pour les guider dans leur conversion d'éclairage. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de conversion où certainement les communes sont un peu perdues entre toutes ces nouvelles technologies que l'on voit apparaître. Nous, on est là vraiment pour les guider et leur permettre d'être conformes à ces nouvelles technologies. Il y a vraiment cette dynamique de sensibiliser et d'engager les communes pour une nouvelle pratique de l'éclairage. Et il faut savoir que c'est une dynamique qui n'est pas du tout contraignante. C'est-à-dire que nous, la façon dont on fonctionne, on va fixer une date à partir de laquelle chaque appareil nouvellement installé devra être conforme à ses exigences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétroaction. Vous n'êtes pas obligé de revenir en arrière sur vos éclairages, seulement dans la continuité des conversions d'éclairage. Et enfin, c'est une chose qu'il faut véritablement mettre en avant, car c'est un grand bénéfice pour les territoires. Nous sommes venus en site pilote pour vraiment expérimenter ces nouveaux modes d'éclairage durables, économes et non polluants. Voilà, donc j'ai une diapo bonus au cas où il y a quelques questions sur nos actions, mais on va directement passer à la diapo. Voilà, ben justement, retomber d'un mode d'éclairage dont je viens de parler qui a été mis en place au Mont-Mégantic. Eux, en quelques chiffres, ça s'est placé sur 16 municipalités. Ils ont converti plus de 3300 luminaires. Et ça s'est traduit par une réduction moyenne de la consommation d'énergie de plus de 30% pour l'éclairage routier et jusqu'à 60% pour les autres applications d'éclairage. C'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu d'économie d'énergie. Et nous ne l'oublions pas, la réduction de la pollution lumineuse jusqu'à 25% de cette pollution. Pierre Goulet, qui est le responsable de cette réserve, nous disait qu'il n'a même pas eu besoin d'appareil de mesure. C'était tellement visible à l'œil nu, cette qualité, cette amélioration du ciel, qu'il n'a pas eu besoin de directement mesurer. Voilà. Donc ensuite, le deuxième axe, donc gardien des étoiles. Voilà, on a fait un peu les belles images parce que là, on est rentré dans le concret depuis le 22 mai dernier. Gardien des étoiles qui est basé vraiment sur deux axes. L'idée à la fois d'avoir un calcul de la pollution lumineuse au niveau de notre zone verte, vraiment d'avoir un état zéro de cette qualité de ciel. Donc l'idée originale qui a été développée, c'est de mettre à contribution différents acteurs, autant les gardes-moniteurs du parc national qui, lors de leur mission, vont aller opérer justement ces mesures, et les gardiens de refuge à qui on donne une nouvelle fonction, qui le soir, voilà, peuvent nous faire les mesures et également faire participer le public. Donc on a cet aspect vraiment mesure, et de l'autre côté l'aspect pédagogie, où la mallette que je tiens ici, que l'on délivre aux gardiens de refuge, contient un poster qui présente le projet, avec les différents aspects pour vraiment sensibiliser le public qui se rendra dans ces refuges. Alors ici, quelques images. Le 22 mai au refuge du Clot, nous avions une dizaine de canons de refuge présents, mais également différents autres acteurs. Et là, voilà, maintenant, les autres refuges qui n'ont pas pu se rendre, sont livrés directement sur site. Donc là, c'est l'équipe du projet, les motivés qui m'accompagnent. Voilà, les crapaudités dans la montagne pour aller faire des formations en altitude avec les gardiens de refuge qui sont très enthousiastes et très volontaires et qui vraiment apprécient cette démarche. Comme ils le disent souvent, les étoiles sont pour eux le soir une compagne. Car évidemment, ils n'ont pas tous les divertissements qu'on peut avoir en pleine. Et là, aujourd'hui, ils sont contents d'avoir les moyens de pouvoir les préserver. Voilà au niveau de la cartographie comment ça se cartographie. Les différents refuges que l'on va retrouver, c'est aujourd'hui tous les refuges des Hautes-Pyrénées, on en compte aujourd'hui 21, pardon. Et plus, comme je le disais, les gardes-moniteurs et l'équipe du projet qui, elle, effectue un véritable quadrillage de mesures sur tous les axes vallonnés pour avoir 7.0 de la qualité du ciel. Et pour la dernière diapo, là, c'était les actions en cours sur lesquelles on a vraiment communiqué et toutes les autres actions qui sont dans les tuyaux, il ne faut pas les oublier. La préparation et la rédaction du dossier de candidature au label IDEA, sur lequel nous planchons activement en ce moment. La délimitation finale du périmètre de la zone tampon, comme vous le voyez, elle est encore en train d'être définie. C'est un gros travail très fin au niveau des territoires. Évidemment, nous disions l'engagement des territoires dans le projet de résidence territoriale, donc ça nécessite d'aller vraiment à la rencontre de ce territoire. Le développement d'un réseau international des acteurs de la protection du ciel étoilé. On a constaté aujourd'hui que beaucoup d'initiatives commençaient à voir le jour. Chacun avait des expériences et des compétences propres que aujourd'hui nous essayons vraiment de mettre en synergie pour créer vraiment, vraiment des avancées très fortes sur tout ce qui va être autant de développement touristique, protection de l'environnement nocturne et amélioration de la qualité des éclairages et des nouveaux modes d'éclairage. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier préparation du futur de la réserve de ciel étoilé, c'est-à-dire l'après-label. Aujourd'hui, ce n'est pas tout d'avoir un label, il faut penser son avenir, il faut pérenniser le projet et le rendre vivant pour les années à venir. Donc, c'est-à-dire continuer d'être volontaire, continuer d'y croire, continuer de rêver, parce que, comme on le voit ici au pic, c'est ce qui a marché et c'est ce qu'on essaie de retranscrire au niveau de la réserve de ciel étoilé. Voilà, merci de votre attention.